96, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Donc on est retombé un petit peu avec un autre texte. C'est étrange comment ça se fait en fait, sans faire exprès que le Seigneur nous conduit vers le verset de la présidence. Donc, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Juste pour le remettre dans son contexte, parce que ça fait longtemps que l'on continue avec les Romains, ça fait un an et demi que l'on poursuit notre étude. Et cette dernière partie, c'est la mise en pratique de notre vie chrétienne en tant qu'être humain justifié avec notre identité d'enfant de Dieu. Et comment nous allons vivre en tant qu'enfant de Dieu. Et le verset clé, qui n'est pas mentionné à l'écran, c'est le début du chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, parce que nous sommes ses enfants. Et depuis le verset 9 de Romains 12, nous avons vu, il y a 15 jours, 3 semaines, toute une série de versets qui nous parlent de notre relation avec les autres, que ce soit entre les chrétiens, à l'intérieur de la communauté chrétienne, ou envers ceux qui peuvent même nous persécuter. Le verset 14 disait « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas. » Et le verset après, 18, qui nous demande « Autant que cela dépend de nous, d'être en paix avec tous. » Donc c'était le relationnel. On a fait la semaine dernière des versets 1 à 7 du chapitre 13. C'est la relation entre le disciple et l'État. Et nous avons vu que nous devons respecter les autorités qui sont en place. Cela pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est Dieu qui les a mises en place pour notre bien, pour le bien commun. Parce que si on fait le bien, on n'a rien à craindre de toute façon. Et puis, finalement, on a vu la relation entre le fait que nous pouvons avoir cette relation de paix, où on bénit même les persécuteurs, on leur fait du bien, mais que l'État est là pour nous protéger. Donc nous ne portons pas les armes, alors que le magistrat porte en quelque sorte de quoi punir. Nous ne punissons pas, nous aimons, nous bénissons. Mais ça n'empêche pas l'État de jouer son rôle, de protéger les persécutés, les minorités, etc. Donc chacun, on se retrouve à la fois comme chrétien dans une église, comme membre du peuple de Dieu, mais nous sommes aussi citoyens d'autre part. Et en tant que citoyens, nous avons des procédures, nous avons des élections, nous avons des tribunaux, etc. Et donc, c'est un rôle différent entre notre vie individuelle et notre rôle de citoyen. Et puis, à la fin de Romains 13, on revient en fait à la même thématique que les versets 9 et 21 du chapitre 12, la vie du disciple. Et c'est ça qu'on a lu tout à l'heure, donc les versets 8 à 15. On va passer à la suite, parce que on s'est arrêté avec ce beau verset qui dit « C'est pour cela que vous payez les impôts » et qui dit « Rendez à tous ce qui leur est dû » dans la traduction du semeur, « Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts et les taxes à qui vous les devez. » Il est souvent dit d'ailleurs qu'il y a beaucoup de versets bibliques sur lesquels on ne trouve pas de chant public dans nos recueils. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé de chant sur le fait que c'est un plaisir de payer les impôts. Ce n'est pas dans les recueils courants, en tout cas, mais c'est un verset biblique. Il est là. Et sert, en fait, de pont à Paul pour aller plus loin. Parce qu'il dit, donc je répète, le verset 7. Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts et les taxes, et qui vous les donne. Puis, il continue au verset 8. Voilà. Mais il reste une dette. Il reste une dette que l'on ne pourra jamais finir de rembourser. C'est le fait d'aimer les autres. Donc ça c'est le lien, le pont qui passe du verset 7 au verset 8. Donc, vous devez l'impôt, les taxes, l'honneur. Donc, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ça, c'est la dette que nous devons honorer, aimer les autres. On revient donc à ce thème de l'amour, qui est fondamental. On a chanté tout à l'heure, il m'aime, ça c'est la base. Nous aimons parce que le Seigneur nous a aimé le premier. Et puisqu'il nous a aimé, premier commandement, plus important selon Jésus, c'est aimer le Seigneur, et le deuxième, aimer notre prochain. Donc voilà, on est en plein dans le centre de l'enseignement biblique. Et il continue pour dire celui qui aime les autres, dans la deuxième partie du verset 8, a accompli la loi. Donc, il faut savoir de ce que cela veut dire. L'amour est l'accomplissement de la loi. Mais dans quel sens? Alors, la première idée que l'on peut tirer, c'est que ce n'est pas dans le sens que j'agis parfaitement en tant que chrétien. On a déjà vu au chapitre 7 que ce que l'on veut faire, on ne fait pas. Ce qu'on ne veut pas faire, on fait. Donc, on ne peut pas dire « Puisque j'aime parfaitement, Dieu va m'aimer. » Donc, ce serait essayer encore d'être sauvé par nos œuvres. Ce n'est absolument pas dans ce sens. Ce n'est pas l'accomplissement de la loi par lequel je peux être sauvé. Sinon, on n'aurait pas besoin du sacrifice de Jésus dont on s'est souvenu avec la scène tout à l'heure. Donc, ça ne peut pas être dans ce sens-là, l'accomplissement de la loi. Alors, je pense qu'il y a deux autres sens possible. Le deuxième, c'est que là où la loi était négative, donc tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, l'amour cherche au contraire à faire le bien. Ça c'est le verset 10 qui dit, l'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc faire ne pas faire le mal, c'est la première étape, mais l'amour cherche à faire vraiment le bien. Et puis, deuxième chose qu'on peut faire par rapport à l'accomplissement de la loi, c'est que la loi donne une direction claire à l'amour, les limites concrètes. La loi va dire, par exemple, revient aux exemples donnés par Paul, tu ne commettras point d'adultère. Parce que les effets terribles de l'adultère, c'est de priver les gens dans un couple d'une relation de confiance, de priver peut-être quelqu'un d'un foyer, d'une famille. Tu ne tueras point, on prive quelqu'un de sa vie. Tu ne déroberas point. Le vol nous prive de ce qui lui appartient, de ce qui nous appartient. Tu ne convoiteras point. La convoitise nous prive du contentement. On n'est pas content de ce qu'on a, on veut autre chose. Donc, tout cela, on se fait du mal à soi-même et à notre prochain. Mais la loi, en même temps, malgré tout, nous donne quelques contours à l'amour. Pour être clair, par exemple, on ne peut pas dire comme Robin des Bois, je vais dérober aux riches pour donner aux pauvres, par amour, parce qu'il ne faut pas dérober. Il y a autre chose à faire, mais c'est limité. Ou quelqu'un qui dirait, je l'ai entendu, pas dans la bouche d'un chrétien, mais de dire l'adultère, ça fait du bien, la femme a besoin d'amour, enfin, etc. Et comme ça, elle sera mieux dans son foyer. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. J'ai entendu des gens dire ce genre de trucs. C'est pas biblique. C'est pas ça. Mais si par amour, on n'a pas les limites données par ce qui semble le négatif, on peut aller dans tous les sens. Ou bien, on va dire, consommons de façon effrénée, ça fait du bien, un peu de... les achats nous rendent heureux en quelque sorte, c'est une sorte de mangeons et buvons, et achetons, car demain nous mourrons. Mais il y a aussi la convoitise qui passe par là, qui fait qu'on n'est jamais satisfait. Donc ces lois sont là pour nous donner des limites. L'exemple que j'ai souvent donné à tel point que vous l'avez peut-être déjà entendu, je dis c'est un peu comme le chrétien est libre, c'est comme s'il roule sur l'autoroute. Mais le long de l'autoroute, il y a toujours des barrières, des glissières. Parce que si jamais, par inattention, s'assoupit ou je ne sais pas quoi, on va toucher ces barrières qui vont nous repousser en fait sur la route. Et la loi, nous, on veut faire du bien, on veut aimer les autres. Et la loi de Dieu est là, de chaque côté en fait, notre liberté, pour nous repousser de nouveau vers cette liberté d'aimer, pour qu'on n'aille pas justement, qu'on n'atterrit pas dans la nature. C'est une image, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est ça le rôle de la loi. Donc, on va dire que aimer, on accomplit la loi et on va encore plus loin, parce qu'on ne pense pas uniquement à ne pas faire des choses, on essaie d'aimer pour faire positivement des choses. Un exemple que Paul donne dans les Éphésiens, où à un certain moment, il dit que celui qui dérobe ne dérobe plus. Très bien, mais il continue pour dire qu'il travaille de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Si on veut, quelqu'un peut dire, tu n'as jamais volé, tu n'as jamais tué, ok, mais qu'est-ce que tu as fait de bien? Donc, ne pas dérober ne suffit pas. Mais si on peut travailler de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin, ça c'est l'amour, parce que c'est positif. Ce n'est pas le contraire de la loi, mais c'est l'accomplissement de la loi. Donc je reviens à cette expression, parce qu'on accomplit le sens même de la loi et on va au-delà de l'interdit pour faire positivement quelque chose par amour. Ok ? On passe maintenant à la deuxième partie de ce texte à partir du verset 11. Où Paul dit cela, intéressant, la théologie. J'ai lu plusieurs pages cette semaine de la part des théologiens pour savoir cela c'est quoi. Mais le consensus, finalement, c'est tout ce qui a précédé, tout ce qui précède cela. Cela, le fait d'aimer les autres, de respecter les autres, de vivre dans la paix, de bénir ceux qui nous persécutent, de se soumettre aux autorités, tout cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. En quel temps nous sommes. Et c'est l'heure de... Alors, il va continuer. Donc, c'était juste un petit rappel de ce qu'on a déjà vu dans Romains 8. Dans Romains 8, on a vu que dans le Nouveau Testament, on parle de deux temps, de deux époques, si on veut. Il y a l'époque actuelle et l'époque future. Et Paul dit dans Romains 8, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. » Donc il y a l'époque actuelle et l'époque future. Jésus en a parlé, je vais citer Luc 18, en disant le siècle-ci, le siècle à venir. Le temps présent, le monde à venir. Et j'avais même cité, quand on a fait Romains 8, 2 Corinthiens 4 aussi. 2 Corinthiens 4, c'est un petit rappel, mais tout le monde n'était pas là quand on a fait Romains 8. Je reviens là-dessus. Donc 2 Corinthiens 4, il en tire une conclusion très intéressante. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Donc, dans ce texte, je rappelle ce que j'ai dit, il compare notre vie à une balance, à l'ancienne. Donc avec les deux plateaux. Donc, on met un poids d'un kilo et un kilo de riz. Hein. C'est plus comme ça dans les supermarchés maintenant, mais... On peut encore trouver parfois sur des marchés. Et Paul dit, sur un plateau, on va mettre nos souffrances de l'époque actuelle. Et ces souffrances semblent très fortes à cet moment, que ce soit des souffrances physiques ou morales ou spirituelles. Et Paul dit, bah attention, ça sent très lourd, hein, mais on met dans l'autre balance le poids éternel de gloire. Alors forcément, la balance va dans l'autre sens et ça fait que nos souffrances actuelles semblent beaucoup plus légères. Donc c'est une application tout à fait concrète de ces deux époques. Et ici dans ce texte de Romains 13, je reviens à Romains 13, nous voyons que, en quelque sorte, il dit, il faut savoir en quel temps nous sommes, en quel temps sommes-nous. Et il dit, nous arrivons à la fin de l'époque présente, et c'est l'époque future qui arrive. À partir de là, donc le chrétien fait déjà partie dans ce sens de cette époque future, hein, déjà mais pas encore. Nous sommes déjà sauvés, mais ce salut sera parfait dans l'époque future, donc l'éternité. À partir de là, trois choses. Il faut donc, encore une fois ce mot-là, au milieu du verset 12, on l'a vu déjà ce matin, donc, c'est cohérent, c'est la conséquence. Il faut donc vivre à la lumière de cette réalité de l'époque future qui nous attend. C'est la raison pour laquelle mangeons et buvons, car demain nous mourrons, ne peut pas être le dernier mot, parce qu'il y a l'époque future. S'il n'y avait pas d'époque future, c'est pour ça qu'on le retrouve dans 1 Corinthiens 15, qui parle de résurrection. S'il n'y a pas de résurrection, ceux qui disent mangeons et buvons, car demain nous mourrons, ont raison. Seulement, il n'y a pas que notre époque, il y a l'avenir éternel. Alors, quelles sont les trois conclusions que Paul propose? Trois exhortations, si on veut, et chaque fois, il y a un négatif et un positif. Ne faisons pas ceci, ne faisons cela. Donc le premier, c'est enlevons les vêtements qui correspondent aux ténèbres et revêtons-nous de vêtements qui correspondent à la lumière qui arrive. Et bizarrement, ce vêtement, c'est de l'armure. Donc, il nous demande, verset 11, de nous réveiller du sommeil, parce que la nuit est avancée et le jour approche. Je lis dans ma version, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, dépouillons ou enlevons les vêtements hein, dans le, en grec, et revêtons les armes de la lumière. Pourquoi les armes ? Parce que un des grands thèmes du Nouveau Testament, c'est que nous sommes dans un combat spirituel, le bon combat, et tant que nous sommes à l'époque actuelle par rapport à l'époque future, là on pourra se reposer. Actuellement, on combat. Et ce n'est pas simplement la fatigue du travail, la fatigue que nous pouvons ressentir, c'est un combat spirituel pour obéir à Dieu et lui plaire. Et c'est pour ça que l'on porte toutes les armes. Je renvoie vers Éphésiens 6, hein, si vous voulez savoir. L'épée de l'esprit, le bouclier de la foi, le casque du salut, etc. Donc il faut prendre toutes ces armes-là pour bien combattre et de nous lever, en quelque sorte. Hein, parce que c'est plus la nuit, c'est le jour. Et de revêtir l'armure. On en a besoin. Première exhortation. Deuxième exhortation. Verset 13. Marchons honnêtement. J'aime bien la traduction du Semeur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Il dit, vivons correctement. Bon, c'est une façon de le dire. Vivons correctement. Correctement en tant que chrétien. Je ne sais pas pourquoi, mais cette traduction m'a plu. Vivons correctement en tant que chrétien, de façon cohérente, parce que autour de nous, qu'est-ce que l'on trouve? Et donc ça, c'est le côté négatif, les orgies, l'ivrognerie, la luxure, donc toute immoralité, la débauche, les querelles, et les jalousies. Et même quand on fait du bien, même en entreprise, quelqu'un me l'a dit ce matin, on essaie de bien faire son travail, ça peut provoquer même des jalousies. C'est bizarre. Mais toutes ces choses-là, les querelles, les jalousies, les orgies, l'ivrognerie, l'immoralité, on laisse de côté. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, il y a quelque chose de mieux. Aimer les autres vraiment, en tant que chrétien, et en attendant la gloire future, c'est bien mieux. C'est vraiment meilleur. Donc vivons correctement. Et la troisième exhortation, c'est au verset 14, où on dit, au fond, le choix est clair, c'est Jésus ou moi, qui va être le premier. Verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. La chair, c'est la façon d'exprimer ce que le Semeur dit, l'homme livré à lui-même, c'est-à-dire l'être humain qui vit sans Dieu, on dit que c'est la chair, parce qu'en fait c'est ses propres désirs qui l'emportent plutôt que le désir de plaire au Seigneur. Donc, on revêt le Seigneur Jésus. C'est une drôle d'expression, mais ce n'est pas la seule fois où Paul le dit. On s'habille de Jésus, en quelque sorte. Ça veut dire que dans la vie, on veut vivre comme lui, il vit. on veut qu'il soit glorifié, comme c'est marqué dans 2 Corinthiens 4 aussi, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Jésus-Christ. Nous ne parlons pas de nous-mêmes, nous parlons de Jésus. Dans l'entreprise, quand on cite la Bible, on peut aussi citer la Bible pour dire, voilà, pour moi, vivre, c'est Christ. C'est ça que je veux aussi. Donc, et puis, bon, ça peut choquer les gens, mais c'est ça que l'on veut. C'est que Jésus soit glorifié. Parce qu'on s'approche de l'époque où tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Degré ou de force. Donc voilà le choix fondamental. On enlève les vêtements qui sont là parce qu'on est en train de dormir, on met l'armure. On vit correctement en repoussant et en renonçant à des choses qui ne conviennent pas à un chrétien. Et on revêt le Seigneur Jésus pour qu'il soit le centre de notre vie est celui que l'on met en avant quand on vit et quand on parle. Voilà le choix fondamental. Et on arrive à la fin de ces deux chapitres qui parlent de notre façon de vivre. Et je pense que ce dernier verset est un petit peu la clé. C'est finalement parce qu'on veut la gloire de Jésus que nous mangions, que nous buvions, quoi que nous fassions, faites tout pour la gloire de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus, ça fait marquer aussi dans les Colossiens. Je vais prier. Seigneur, merci parce que non seulement nous sommes devenus tes enfants, mais nous savons que nous sommes vraiment bien et à l'aise et en paix quand nous te glorifions. Seigneur, protège-nous des tentations. Protège-nous de marcher comme ceux qui ne se connaissent pas. Protège-nous de vivre comme si cette vie, c'est la seule vie qui existe, alors que nous sommes sauvés pour la vie éternelle. Seigneur, aide-nous chacun dans sa vie à mettre tout cela en pratique. Je n'aurais pas pu, Seigneur, donner plein d'exemples de comment on vit ces choses, parce que le contexte de chacun est différent. Mais aide-nous tous, aide-nous chacun à réfléchir comment te glorifier et comment vivre aujourd'hui dans l'attente de ton retour qui va être le début de cette nouvelle époque. Que nous puissions te glorifier. Au nom de Jésus. Amen.
Choisis un chant pour la fin, sinon je...
Deux chants. Okay.